Bienvenue au Diable Beauvert. À notre table, ce dimanche, la plus vénitienne des natifs d'Alaska, c'est-à-dire sur les rives de la Sérénissime qu'elle a trouvé l'amour, c'est aussi la plus épanouie des mezzos, même si elle a cru longtemps à regret devoir être soprano. Bref, l'une des plus belles voix d'aujourd'hui, et si qui ne gâte rien, c'est elle qui a préparé notre menu, steak à la vivica, polenta au lait et orange à la massimo. Alors dépliez vite votre serviette et montez le son.
Il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Benjamin d'une famille de trois sœurs, sa mère d'origine suisse-allemande, bien connue au Mexique, professeur de langue, lui donna le goût de les mettre en pratique quand son père, biochimiste, la poussera à étudier la génétique à l'université, ce dont elle se détournera bien vite. Heureusement si j'ose dire, à Fairbanks, l'hiver dure 9 longs mois, incitant les enfants à se frotter à toutes sortes de disciplines, ce qu'elle fera en étudiant la danse, le violon, le piano et bien sûr le chant. Mais à 13 ans, elle déteste toujours l'opéra, au point de s'acharner à passer l'aspirateur le dimanche quand ses parents écoutent religieusement les retransmissions du Met, ce qui ne l'empêche pas toutefois, lorsqu'elle découvre qu'une nouvelle production de My Fair Lady doit être montée, d'apprendre tout l'ouvrage en quelques jours pour décrocher le rôle-titre. À Bloomington, on l'arrange parmi les sopranos, mais elle ne se sent pas dans la peau d'une victime comme Mimi. Il lui faudra la rencontre avec Claudia Pinza, la fille du légendaire Ezio, qui deviendra comme sa seconde mère, pour trouver enfin sa vraie voix, celle de mezzo. Ce sont ensuite des cascades de vocalises pyrotechniques, celle de son cher Rossini, de l'italienne Angé jusqu'à la Cenerentola, en passant par ses Rosines, qu'elle croise tous les jours dans les rues de Venise, Handel bien sûr, ou ce plus rare à ceux qu'elle découvre auprès de René Jacobs, non sans rêver peut-être de se frotter un jour à la vénéneuse Carmen, même si elle a désormais plus d'une vingtaine de rôles d'hommes à son actif, moins que de femmes fatales. Le reste, vous le découvrirez au fil de notre déjeuner musical, auquel nous avons le plaisir de convier aujourd'hui Vivica Génaud.
Thank you.
Cagenot.
Bonjour Thierry.
Alors nous vous écoutions là bien sûr un extrait d'Il Chira e Continuo autour de Johann Adolphus, pardon. Quoi le nommer c'est Ascolto, un extrait d'un dernier disque qui vient de paraître chez Deutsche Harmonia Mundi avec la Capella Gambetta sous la direction d'Andrés Gambetta. Et on vous retrouvera d'ailleurs le 1er février à Paris, Salle Gaveau, pour un programme partagé entre Wendel, Asse, puis quelques pyrotechnies dont vous avez le secret aussi. Et donc ce disque, c'est un hommage à Faustina Bordoni. Alors c'est bien parce que vous avez tellement chanté de rôle d'homme qu'enfin voilà une femme très belle.
Oui, c'est vrai.
Dont Wendel était éperdument amoureux.
Oui.
Grande cantatrice à son époque.
Une
star. Hein.
Oui, elle était fantastique. Et puis c'était la première fois que j'ai eu la possibilité de faire un peu de recherche sur la vie d'une chanteuse après le disque que je fais avec René Jacobs de Farinelli. Parce que quand on a choisi les airs pour Farinelli, René m'a donné plein des airs. Il m'a dit, choisis-toi celles-ci qui vont mieux pour ta voix. Et alors, c'est là que j'ai commencé à comprendre que les voix des chanteuses et des chanteurs même commencent très aiguës et puis finissent très bas. Alors, l'extrait qu'on a entendu maintenant, c'était de la dernière opéra que Faustina a chanté. Et on entend que c'est la voix, c'est assez grave. Et c'est comme entendre les enregistrements de Josephine Baker, par exemple. Quand elle commence, elle est très aiguë. J'ai deux amours. Et puis, j'ai deux amours. Elle commence. Alors, c'est la même chose avec Farinelli, avec Faustine. C'est très intéressant, ce disque-là, parce que on n'a pas mis des autres compositeurs comme Leo Vinci, Orlandini, qu'elle a chanté beaucoup quand elle était jeune. Mais en même temps, les opéras de Handel qu'elle a chanté, c'était dans sa jeunesse. Et alors, les airs de Tolomeo, de Alessandro aussi, sont plus aigus. Et on entend, avec le passage du temps, que la voix descend peu à peu. Et comme chanteuse, c'est incroyable, c'est très intéressant comme recherche.
Heureusement, vous, Vilka Geno, vous avez la voix des deux Faustina, la jeune et la plus âgée.
Mais j'ai commencé déjà bas.
Je le disais dans mon papier introductif, on vous a classé comme soprano au départ pendant vos études, alors que vous n'aviez pas du tout envie finalement. Hein.
Oui, mais j'ai jamais travaillé comme soprano, mais pour plusieurs raisons.
Alors je le disais dans mon petit papier, enfant évidemment vous faites beaucoup de musique parce qu'il faut bien s'occuper à faire Banks l'hiver, mais vous n'aimiez pas l'opéra, vous détestiez ça.
Non, absolument. Non. Ouais, c'était ma mère qui était passionnée de l'opéra. Mon père écoutait toujours les disques de l'orchestre, Mahler, Brahms, Bruckner, tous les gros... des grosses œuvres pour orchestre.
Ça, vous aimiez les symphonies, en revanche.
Oh, j'adorerais.
Les concertos pour violon aussi, je crois.
Oui, j'ai étudié violon, mais au violon, j'ai toujours étudié Vivaldi, qui autant, c'était pas mon truc. J'aurais adoré. Quand j'ai commencé à chanter comme mezzo-soprano, je connaissais pas du tout le répertoire de mezzo. J'ai commencé avec Saint-Saëns et Dalida. Pour vous donner l'exemple. J'ai toujours eu l'envie d'avoir la voix grand, énorme, qui pouvait chanter les grandes œuvres. Mais bon, ça sera dans la prochaine vie.
On verra alors. En tout cas, dans la présente vie. Donc, à 13 ans, vous passez l'aspirateur pour embêter votre maman. Mais quand même, il y a un jour ce déclic avec My Fair Lady.
Just you wait in me agains, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light. You'll be broke and all have money. Will I help you, damn be funny? Just you wait in me agains, just you wait. Just you wait in me agains till you're sick. And you screams to fetch a doctor double quick. I'll be off a second lighter and go straight to the theatre. Ha ha, Henry Higgins, just you wait. Ooh, Henry Higgins, just you wait until we're swimming in the sea. Ooh, Henry Higgins, and you get a cramp a little ways from me. When you yell you're gonna drown, or get dressed and go to town. Ho ho ho, Henry Higgins. Ho ho ho, Henry Higgins. Just you wait.
be proper and prim. Go to St. James, so often I will call it St. Jim. One evening the king will say, "Oh, Liza, old thing, I want all of England your praises to sing next week on the 20th of May. I proclaim Liza Doolittle Day. All the people will celebrate the glory of you, and whatever you wish and what I gladly will do. Thanks a lot, King," says I, "in a manner well bred, but all I want is Henry Higgins Ed." "Done," says the king with a stroke. "Good, run and bring in the bloke.
Then they'll march Henry Higgins to the wall, and the king will tell me Liza stand the call. As they raise their rifles, I'll shut ready.
Un extrait de la bande originale de My Fair Lady, je peux en témoigner à nos auditeurs, vous le savez toujours par cœur, hein, Vivi, chez nous, ce rôle d'Elisa. Alors c'était Audrey Hepburn à l'écran, mais bien sûr, la bande-son c'était Marnie Nixon. À 13 ans, vous pensiez vraiment pouvoir décrocher le rôle d'Elisa ?
Oh oui, j'avais aucun doute.
Mais vous l'avez eu ou pas ?
Comment ?
Vous l'avez eu ou pas, du coup ?
Oui,
vous l'avez
eu,
réellement ?
Oui. Et c'est étrange parce que je dis toujours que le genre, le juste personne, on se trouve dans le sentier de la vie, toujours au moment juste. Et on était au Japon, parce que mon père, qui était professeur de biochimie, avait pris sabbatical. Alors, on était 5 mois à Osaka. Et quand j'ai su qu'en Alaska, on aurait fait My Fair Lady, j'ai dit, mais moi, je dois me préparer. Et on a trouvé le livret, c'est-à-dire pour le texte pour l'œuvre théâtrale, dans quelques bibliothèques au Japon, en anglais. Et c'était... C'est impossible, ça. Et alors, j'ai appris le premier acte en train, en ayant... on était, je ne sais pas, à Okinawa, je pense, on était allé pour la fin de semaine. Et dans le train vers Okinawa, j'ai appris le premier acte. Et retournons le deuxième acte, à mémoire. J'ai appris tout. Et ça, c'était... au novembre. Et j'ai fait l'audition au juillet de l'année prochaine. Et je savais tout. Je connaissais tout leur rôle par cœur.
Y compris c'était les autres, du coup. Oui, ils connaissaient tous les rôles, y compris celui d'Higgins.
Ouais. Mais c'était là que j'ai découvert le théâtre. C'était un coup de foudre parce que j'étais tombée amoureuse du théâtre. J'ai aidé à construire les scènes aussi, à peindre. Pas faire les costumes parce que je ne sais pas coudre. Mais
alors, pourquoi aller faire de la génétique avant vos véritables débuts
ensuite ? Mais parce que c'était toujours un hobby pour moi, la musique. C'était toujours un passe-temps et je ne connaissais que la science dans ma vie comme profession parce que j'habitais dans un endroit de Fairbanks en Alaska où ils habitaient tous les professeurs de l'université. Alors je fréquentais toujours ces enfants. Et alors, ma meilleure amie, Keiko, son père était le directeur de l'Institut de Geophysics.
Géophysique, oui.
Il était le expert maximum de l'Aurora Borealis.
Northern Lights. En plus, on peut les voir.
Ouais.
Oui.
Et puis, des autres avaient des parents biologues. Et c'était la seule chose que je connaissais dans la vie. Alors, pour moi, génétique, c'était la chose plus évidente qu'on pouvait faire.
Ah, Vivica, on va parler après, évidemment, de la suite de votre carrière. Mais finalement, vous réunissez vos deux passions parce que vous avez quand même un diplôme de sciences, mais qui porte sur la voix.
Oui, c'est ça.
C'est mignon,
un Bachelor of Science dans la voix. C'est incroyable. Oui, c'était seulement.
Après, ça sert à quoi, ça donne quoi comme métier? Ça pourrait être phoniatre ou non?
Je pense pas, non. C'est un mélange pour qui n'était pas contente d'étudier que la musique, mais qui voulait avoir. C'est parce que j'étais allée avant pour la génétique et puis j'étais pas contente, alors je suis transférée. Et pour pas perdre tout le temps que j'avais déjà donné, ils m'ont dit, conseillé de faire le Bachelor of Science, là, on voit. Mais bon.
Et puis après, heureusement, les choses seront mettre en ordre. Vous découvrez réellement Mezzo. Et tout commence avec ce bon Rossini. C'est l'italienne Alger de Rossini. Vous étiez Isabella, Vivi Cageno, ici avec l'ensemble orchestral de Paris, s'appelait comme ça à l'époque, sous la direction de John Nelson. Alors, c'est votre premier grand rôle, cette Isabella.
Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai débuté avec ça. Ouais.
Et encore une audition ?
C'était la première fois dans ma vie que j'ai eu le contrat par une audition, parce que j'ai fait plusieurs auditions. J'ai entendu dire aussi Jennifer Larmour était comme ça. Elle avait fait plusieurs auditions, 50 auditions, sans rien avoir. Et pour moi, c'était la même chose. J'étais très bien à faire les concours de voix. J'ai vaincu, j'ai gagné plusieurs prix. Mais quand j'étais à faire les auditions pour le travail, les gens ne savaient pas quoi me faire de moi. Et alors, c'était la première fois que j'ai fait l'audition pour Joseph Recinio. Et il m'a dit, non, tu dois venir chanter ça. C'était aux États-Unis dans un vieux théâtre de vaudeville, le Pabst Theater en Milwaukee. Chouette, tellement beau. Et c'est rare aux États-Unis de trouver ce théâtre-là.
Un vieux théâtre, oui.
Et alors, ma première, j'ai entendu battre à la porte de ma loge. Et j'étais préparée, il manquait que 5 minutes au début de l'opéra. Alors j'ai ouvert la porte et j'ai vu Recinio là avec le directeur général de l'opéra. Ils étaient blancs de visage.
Ils venaient de découvrir que vous n'aviez jamais chanté.
Oui, parce qu'ils avaient lu dans le programme que c'était mon début. Et ils m'ont demandé, mais c'est vrai, c'est ton début ça? Et j'avais peur, j'ai dit, mais peut-être ils vont me demander de partir, de ne pas chanter ce soir. Mais moi, je suis la seule Isabelle dans le théâtre ce soir, alors je dois chanter, j'ai déjà le perruque sur la tête. Alors j'ai dit, oui, c'est la première fois que je chante. Et dans la salle ce soir-là, il y avait aussi Ian Campbell, qui est le directeur général de San Diego Opera, qui était toujours en compagnie très importante chez nous aux États-Unis. Et il était assis près de ma mère. Je ne sais pas si c'était
le
fait
hasard.
Exprès, mais bon. Et alors, ma mère a su qu'il voulait aussi faire Italian in Algérie. Elle lui a demandé, est-ce que vous allez prendre ma fille pour chanter Isabelle? Il a dit, oh, je ne sais pas. Et à l'entracte, il a dit, madame, je vais donner un contrat à votre fille. Alors...
Et alors évidemment, après, il y en aura beaucoup des Italiennes à Alger dans votre carrière et votre répertoire, un rôle qui évolue d'ailleurs toujours. Et puis, toujours chez Rossini, ben voici un autre de vos grands rôles.
Una voce poco fa, qui nel cuor mi suona, il mio cuor ferito è già, e che piago sì l'indurro mio sarà lo giurai la vincerò sì l'indurro mio sarà lo giurai la vincerò. Tutto ricuserà, io l'ingegno aguzzerò, alla fin s'accederò e contenta io resterò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Sì, rispettosa, sono obbediente.
mi lascio reggere, mi fo guidar, mi fo guidar. Ma se mi tocca, dove il mio debole, sarò una vipera, sarò. E cento drappoli prima di cedere, farò giocare, farò giocare. E cento trappole prima di cedere, farò giocare. E cento trappole prima di cedere. E cento trappole farò giocare. Sono docile, sono obbediente, mi lascio reggere, mi voglio
toujours Rossini, un extrait du Barbier de Séville, votre Rosine Vivi Cageno. Toujours un extrait de cet album consacré aux arias du bel canto avec l'ensemble orchestral de Paris sous la direction de John Nelson. Pourquoi vous avez dit dans une interview que des Rosines vous en croisiez tout le temps dans les rues de Venise ?
Oui, c'est vrai. Plus que Venise, à Oderzo, dans une petite ville près de où j'habite en Italie. Non, c'est vrai parce que j'ai fréquenté l'Italie maintenant depuis 20 ans. J'ai commencé dans 92. À étudier en Italie. Et pour moi, je suis née et vécue en Alaska, alors c'est un pays très nord, et les femmes ne sont pas tellement féminines comme en Italie, c'est sûr, et en Espagne.
On s'habille un peu plus chaud en Alaska.
Oui, bon, il faut être très fort pour survivre là-bas en Alaska, c'est ça. Et alors, pour commencer à chanter les femmes, j'ai dû apprendre... qu'est-ce que ça voulait dire, être féminin ? Et en Italie, je trouvais ça, oui, sur les roues. Il y a un mode différent de rapport entre les hommes et les femmes en Italie qu'aux États-Unis, c'est sûr. Ici, en France, peut-être c'est plus pareil qu'Italie.
Entre les deux.
Mais non, je ne sais pas. Oui,
la galanterie française, quand même.
Oui, bon... Mais c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on était dans les années 80, les femmes, pour avoir succès dans le travail, elles devaient apprendre à être plus masculines. Et moi, en Italie, j'ai appris que c'était possible d'être féminin, mais avoir succès
Mais de pouvoir aussi faire les rôles travestis d'hommes.
Oui, mais ça, c'était autre chose. Ça, j'ai appris en Espagne. Non, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup en Italie de cette façon féminine. Et il y a des Don Bartolo aujourd'hui aussi, quand on voit les médecins, les hommes très protectifs vers la famille, que je ne connaissais pas de ma vie.